Page 166. On a deux listes à trier pour les classer. La première par racine et la deuxième par schème, par forme. La première par racine avec le son 95, ce n'est pas compliqué. On se rappelle qu'il faut enlever l'article, enlever le tal marbouta à la fin, ce qu'on appelle la marque de féminin. Ensuite, se rappeler quelques formes de mots. Par exemple, le premier mot, hamid, ça nous rappelle les adjectifs. Et on sait que le ya a été ajouté aux trois lettres de la racine. Donc, si on obtient la racine du premier mot, hamade, eh ben, on traverse la liste et on relève. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5 mots. Et on procède de la même manière. Parfois, en enlevant l'article, il ne reste que 3 lettres. C'est le cas du deuxième mot. Et dans ce cas, ce sera très facile de repérer les mots associés. Pour la forme, je pense que maintenant, on a l'habitude. Ce qui est adjectif, ce qui est participe, passé, présent, ce qui est élatif, qui permet d'exprimer une comparaison, par exemple, comme le premier mot. Akram, qui veut dire plus généreux, et ainsi de suite. Pour la liste du vocabulaire qui est en bas, qui un vocabulaire qui n'est pas traduit. Donc on va le parcourir rapidement, mais sincèrement, il ne faut rien écrire en face. Sinon, ça sera carrément neutralisé et inutile dans le livre. C'est une liste à regarder de temps en temps pour vérifier que vous vous souvenez du sens des mots. Et pour faciliter le travail de mémorisation, le vocabulaire est trié par racine. Au passage, on apprend comment consulter des dictionnaires classés de cette façon. Alors la première racine, c'est « ahle ». Ça nous donne « el-el ». On se souvient de ce mot « el-el ». « El-el », c'est les parents, la famille dont on est enfant. Mais « ahle rif », rif, c'est la campagne. Donc ce n'est pas les parents de la campagne, c'est les habitants de la campagne. Par contre, lorsqu'on dit « ehli », ce n'est pas « mes habitants », c'est « mes parents », ma famille. « Ehli al-Medina », les habitants de la ville. « Ehli al-Fan », ce n'est pas les habitants de l'art, c'est les gens de l'art. Et « ehlan wa sahlan », on l'a vu plusieurs fois, c'est « bienvenue ». Qu'on peut prononcer seul, ahlan wa sahlan, ou à la suite d'une réponse à une salutation. Si on entend assalamu alaikum, on répond wa alaikum assalam, ahlan wa sahlan. Donc c'est assez chaleureux, disons, d'ajouter ahlan wa sahlan. On peut même dire ça par la suite, hein. Supposons qu'on a un invité. Et pour lui dire « Ah, je suis content que tu sois là », on lui sort « Ahlan wa sahlan » au bout de quelques minutes. Et quand il s'en va, on peut lui dire « Ahlan wa sahlan » pour dire qu'il sera toujours bien accueilli s'il revient. Deuxième racine, « thaqala ». Ça indique la lourdeur. Donc il y a « thaqil »,« thaqil », lourd, et « thaqil dam », c'est, bon, il a le sang lourd, ça veut dire qu'il manque un peu de chaleur humaine. Il n'est pas drôle, il n'a pas d'humour, pas souriant, etc. Voilà, il est d'un mot, alors il a un humour lourd à porter, comme on dit relou en français. Hein. Alors, hadatha, ça évoque un événement, ce qui survient. Donc le verbe hadatha yahduth, c'est survenir, arriver, se produire. Et hadith, alors hadith ne peut avoir deux statuts et deux sens totalement différents. D'abord, la forme nous rappelle que ça peut être un adjectif. Hadith, ça veut dire moderne. Mais le mot a été substantivé pour évoquer ce qui est dit. Ce qui est dit, al-hadith, c'est le discours, la parole, etc. Et on a un verbe, tahaddatha yatahaddath, c'est comme takallama yatakallam. Et, par extension, al-hadith, c'est spécifiquement les paroles qui auraient été dites par le prophète. Ce sont des énoncés qui ont été fixés deux ou trois siècles après sa mort. Donc, vrai ou faux, peu importe. C'est accepté collectivement et ça fait partie du patrimoine religieux. Alors, kharaj, ça indique l'idée de sortir, mais sortir d'un territoire, par exemple, d'un espace. Donc, al-kharaj, ça peut être celui qui sort. Donc, al-kharaj, autrefois, ça aurait pu être le rebelle qui sort du périmètre légal, donc qui se révolte. Et d'où le mot « khariji », les kharijites qui occupent un espace important dans l'histoire de l'islam. Alors « kharaj yakhruj », le verbe, c'est « sortir ». Mais je reviens sur « al-kharaj ».« Al-kharaj », d'une manière neutre, ça peut être l'espace, donc l'extérieur. Si on dit « huwa fil kharaj », ça peut être « il est à l'extérieur », si on parle de quelque chose de proche. Mais ça peut être, plus loin, ça peut être à l'étranger. Donc « al-kharaj », c'est l'étranger. Et d'ailleurs, pour dire le ministère des Affaires étrangères, on dit « wizarat al-kharijiyya ». Alors, la racine suivante, c'est « khataba ». « Khataba », et on a un terme qui apparaît dans ce chapitre, c'est al-khatib. Al-khatib dans le sens de fiancé. Et al-khatib est la fiancée. Mais al-khatib peut être, on n'a pas vu cet emploi dans ce chapitre, mais ça peut être le tribun, celui qui prononce un discours. Khawaf, ça évoque la peur. Khaf et khaf, avoir peur. Khaef, c'est celui qui a peur. Ça ne veut pas dire peureux. Non, il a peur, tout simplement. Sabaa, ça évoque plusieurs choses, dont le nombre 7. Donc on va se limiter à cette signification. Al-usbu', c'est la semaine. Et on a al-usbu' al-fa'it, ça veut dire la semaine passé, c'est exactement ça, c'est la semaine qui est passée. Et al-usbu' al-qadim, c'est la semaine qui vient, donc la semaine prochaine. Safara, ça évoque, là aussi, plusieurs choses, mais essentiellement le voyage, dans le vocabulaire vu jusqu'ici. Safara yusafir, c'est le verbe voyager. Safar, c'est à la fois le voyage en général et l'action de voyager, donc l'infinitif voyager. Essefir, l'ambassadeur, et son pluriel c'est soufara. Et musafir, c'est le participe présent du verbe safara yusafir. Et musafir, ça peut être un voyageur, un passager dans un moyen de transport. Et ça peut être, un moyen de transport longue distance. Ça peut être juste pour dire que quelqu'un est en voyage. Par exemple, on demande à voir quelqu'un et on nous dit, eh ben, il est en voyage. On peut entendre huwa musafir. Et musafir, ça peut être aussi employé avec une valeur verbale pour dire être sur le point de partir en voyage. Par exemple, on croise quelqu'un avec une valise. On dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, ah, ana musafir. Ça veut dire, je vais partir en voyage. Maintenant, charaye, là aussi, il peut y avoir plusieurs significations, mais on va se contenter d'un verbe, ishtara, yeshteri, c'est le verbe acheter. Shakara, c'est, ça évoque le remerciement. Ashukr, donc le remerciement. Et shukran, c'est merci. Araf, l'idée de savoir, de connaître. Al-ma'rifa, c'est la connaissance, et ma'ruf, connu. Alam, ça évoque aussi l'idée de savoir. Alim, c'est un savant, et le pluriel, ulama. Ulama, alors attention, ulama, c'est un pluriel. Et lorsqu'en français on dit un ulama, ça vient du mot ulama, mais c'est singulier en français. C'est pas conforme à la grammaire arabe. Al-alam al-arabi, le monde arabe. Al-ilm, c'est la science. Et le pluriel, ulum. Par contre, al-alam, c'est le drapeau. Et le pluriel, a'lam. Et al-awlama, c'est un mot qui a été inventé dans les années 80, 90. Pour traduire la mondialisation. Là, ça peut être un élément de datation d'un article, d'un livre. Ce n'était pas utilisé avant. Amara, là aussi, il y a plusieurs significations, mais on va se contenter d'un sens, c'est l'âge. Al-umr, l'âge. Umri, X années, donc Omri, Kada Sana, donc j'ai tel âge. Omruka, Omruki, Kada Sana, Omruhu, Kada Sana, Omruha, Kada Sana. Amale, c'est l'idée de travail. Amil, ouvrier, le pluriel Omal. Amile, Yamel, c'est travailler, tout simplement. Et l'amel, ça peut être le travail dans son ensemble ou l'infinitif travailler. Par exemple, quelqu'un dit "Ohib al-amal kulyom", donc j'aime travailler tous les jours. Mais si quelqu'un dit "Ohib hada al-amal", j'aime ce travail. Bien. Al-ma'mal, alors c'est un endroit où on travaille. Ça a été utilisé au XXe siècle, peut-être un peu avant, pour évoquer une usine, al-ma'mal. On a un autre mot, masna, qui est un mot ancien, qui évoquait les palais, les châteaux, et qui a pris le sens de grande usine. Mais ma'mal reste le mot le plus courant utilisé pour désigner les usines. Et ma'amil, c'est le pluriel. Gharaba, al-gharb, c'est l'ouest. Gharbi, occidental, de l'ouest. Et ça vient de al-ghuroub. Al-ghuroub, c'est le coucher de soleil. Et pour être précis, on peut dire ghuroub shams. Mais à partir de cette racine, on a aussi un adjectif, gharib, pour dire étrange. Magharibi, maghrébin, al-maghrib, le Maroc, al-maghrib al-arabi, ce n'est pas le Maroc arabe, c'est le Maghreb, et maghribi, marocain. Qadama, là aussi il peut y avoir plusieurs sens, mais on se contente de qadim pour dire ancien, et qadiman, c'est l'adverbe, anciennement. Qaraba, ça évoque l'idée de proximité. Donc, « qurba », c'est près d'eux. Qurban nafidha, près de la fenêtre. Qurban ha'it, près du mur. Et qarib, proche. Wahada, c'est l'idée de l'unicité qui est suggérée par cette racine. Wahdi, moi tout seul. Wahdaka, wahdaki, toi tout seul ou toi toute seule. Wahdahu, wahdaha, wahdana, wahdakum, wahdom. Tout ça c'est clair. Wazara, là aussi, il peut y avoir plusieurs sens, mais on se contente. La signification qui nous renvoie est une responsabilité ministérielle. Donc, wizar, c'est ministère. Wizarat al-Kharijiyya, le ministère des Affaires étrangères. Wizarat al-Dakhiliyya, le ministère de l'Intérieur. Mais la morphologie est semblable. Donc, c'était à l'origine un ministère des Affaires intérieures. Donc, c'est un adjectif, Dakhili. Wizarat al-Ta'lim al-Ali, par le mot ta'lim, on peut penser à ta'allama yata'allam, apprendre, et allama yu'allim, enseigner. Et ici, c'est évidemment l'enseignement. Wizarat al-Ta'lim al-Ali, donc l'enseignement supérieur. Al-Ali, ça veut dire haut. Wazir, ministre. Et autrefois, ça correspond à ce qu'on appelait le vizir, qui était une sorte de premier ministre au Moyen-Âge. Alors, walada, ça évoque l'idée de naissance. Donc, walad, un enfant, un garçon, et le pluriel, aulad. Wulidtu, je suis né. Voilà, c'est ce qu'il y a sur cette page, mais évidemment, en travaillant, vous pouvez rencontrer d'autres termes qui ont été négligés dans ce relevé et étoffer un peu plus cette liste, cette petite liste de racines. Et quand vous aurez entre les mains un dictionnaire classé par racine, bon, ça peut être intéressant de temps en temps de jeter un coup d'œil sur une racine, sur une entrée, et voir tout le vocabulaire. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir tout apprendre, parce qu'après vous risquez de perdre le contrôle de votre capital lexical. Voilà pour cette page 166.